Mais monsieur, avant de vous quitter, je voudrais encore vous demander de lire, comme vous l'avez promis d'ailleurs, les deux premières pages de La femme de 30 ans.
Vraiment? Ah, je suis content que vous ayez choisi ce roman. Attendez. Il y a tant de livres ici. C'est où? Alors, ah, le voilà. Alors, je vais lire les deux premières pages.
Alors juste pour donner envie à nos auditeurs de lire votre roman eux-mêmes.
D'accord, alors allons-y. La femme de 30 ans. J'ai dédié ce livre à Louis Boulanger, le peintre, vous savez. Chapitre 1. Première faute. Au commencement du mois d'avril 1813, il y eut un dimanche dont la matinée promettait un de ces beaux jours où les Parisiens voient pour la première fois de l'année leur pavé sans boue et leur ciel sans nuages. Avant midi, un cabriolet à pompe attelé de deux chevaux fringants déboucha dans la rue de Rivoli par la rue Castiglione et s'arrêta derrière plusieurs équipages stationnés à la grille nouvellement ouverte au milieu de la terrasse des Feuillants. Cette leste voiture était conduite par un homme en apparence soucieux et maladif. Des cheveux grisonnants couvraient à peine son crâne jaune et le faisaient vieux avant le temps. Il jeta les rênes au laquais à cheval qui suivait sa voiture et descendit pour prendre dans ses bras une jeune fille dont la bonté et descendit pour prendre dans ses bras une jeune fille dont la beauté mignonne attira l'attention des oisifs en promenade sur la terrasse. La petite personne se laissa complaisamment saisir par la taille quand elle fut debout sur le bord de la voiture et passa ses bras autour du cou de son guide qui la posa sur le trottoir sans avoir chiffonné la garniture de sa robe en reps vert. Un amant n'aurait pas eu tant de soin. L'inconnu devait être le père de cet enfant qui, sans le remercier, lui prit familièrement le bras et l'entraîna brusquement dans le jardin. Le vieux père remarqua les regards émerveillés de quelques jeunes gens et la tristesse empreinte sur son visage s'effaça pour un moment. Quoiqu'il fût arrivé depuis longtemps à l'âge où les hommes doivent se contenter des trompeuses jouissances que donne la vanité, il se mit à sourire. L'on te croit ma femme, dit-il à l'oreille de la jeune personne en se redressant et marchant avec une lenteur qui la désespéra. Il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille et jouissait peut-être plus qu'elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunelle peu. Il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille et jouissait peut-être plus qu'elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunelle puce, sur une taille délicieusement dessinée par une robe à guimpe et sur le cou frais qu'une collerette brodée ne cachait pas entièrement. Les mouvements de la marche relevaient par instants la robe de la jeune fille et permettaient de voir, au-dessus des brodequins, la rondeur d'une jambe finement moulée par un bas de soie à jour. Aussi, plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour revoir la jeune figure autour de laquelle se jouit. Aussi, plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour revoir la jeune figure autour de laquelle se jouaient quelques rouleaux de cheveux bruns et dont la blancheur et l'incarnat étaient rehaussés autant par les reflets du satin rose qui doublait une élégante capote que par le désir et l'impatience qui pétillaient dans tous les traits de cette jolie personne. Une douce malice animait ses beaux yeux noirs fendus en Une douce malice animait ses beaux yeux noirs fendus en amande, surmontés de sourcils bien arqués, bordés de longs cils et qui nageaient dans un fluide pur. La vie et la jeunesse étaient leur trésor sur ce visage mutin, sur un buste gracieux encore, malgré la ceinture alors placée sous le sein. Insensible aux hommages, la jeune fille regardait avec une espèce d'anxiété le château des Tuileries, sans doute le but de sa pétulante promenade. Il était midi moins un quart. Quelque matinale que fût cette heure, plusieurs femmes, qui toutes avaient voulu se montrer en toilette, revenaient du château, non sans retourner la tête d'un air boudeur, comme si elles se repentaient d'être venues trop tard pour jouir d'un spectacle désiré. Quelques mots échappés à la mauvaise humeur de ces belles promeneuses désappointées et saisies au vol par la jolie inconnue l'avaient singulièrement inquiétée. Le vieillard épiait d'un œil plus curieux que moqueur les signes d'impatience et la crainte qui se jouaient sur le charmant visage de sa compagne et l'observait peut-être avec trop de soin pour ne pas avoir quelques arrière-pensées paternelles. Ce dimanche était le 13e de l'année 1813. Le surlendemain, Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Bessières et Duroc, gagner les mémorables batailles de Lutzen et de Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, par Bernadotte et disputer la terrible bataille de Leipzig. La magnifique parade commandée par l'empereur devait être la dernière de celles qui excitèrent si longtemps l'admiration des Parisiens et des étrangers. La vieille garde allait exécuter pour la dernière fois les savantes manœuvres dont la pompe et la précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même qui s'apprêtait alors à son duel avec l'Europe. Un sentiment triste amenait aux Tuileries une brillante et curieuse population. Chacun semblait deviner l'avenir et pressait peut-être plus que d'une fois l'imagination aurait à retracer le tableau de cette scène quand ces temps héroïques de la France contacteraient, comme aujourd'hui, des teintes presque fabuleuses. « Allons donc plus vite, mon père !» disait la jeune fille avec un air de lutinerie en entraînant le vieillard. « J'entends les tambours !»
C'est les troupes qui entrent aux Tuileries, répondit-il.
Ou qui défilent, tout le monde revient, répliqua-t-elle avec une enfantine amertume qui fit le sourire le vieux.
Ou qui défilent, tout le monde revient, répliqua-t-elle avec une enfantine amertume.
Bah.
Ou qui défilent, tout le monde revient, répliqua-t-elle avec une enfantine amertume qui fit sourire le vieillard.
La parade ne commence qu'à midi et demi, dit le père, qui marchait presque en arrière de son impétueuse fille. À voir le mouvement qu'elle imprimait à son bras droit, vous eussiez dit qu'elle s'en aidait pour courir. Sa petite main, bien gantée, froissait impatiemment un mouchoir et ressemblait à la rame d'une barque qui fend les ondes. Le vieillard souriait par moments, mais parfois aussi des expressions soucieuses attristaient passagèrement sa figure desséchée. Son amour pour cette belle créature lui faisait autant admirer le présent que craindre l'avenir. Il semblait se dire « Qu'elle est heureuse aujourd'hui, le sera-t-elle toujours ?» Car les vieillards sont assez enclins à doter de leur chagrin l'avenir des jeunes gens. Quand le père et la fille arrivèrent sous le péristyle du pavillon au sommet duquel flottait le drapeau tricolore et par où les promeneurs vont et viennent du jardin des Tuileries dans le carrousel, les factionnaires leur crièrent d'une voix grave
« On ne passe plus !»
L'enfant se haussa sur la pointe des pieds et put entrevoir une foule de femmes parées qui encombraient les deux côtés de la vieille arcade en marbre par où l'empereur devait sortir.
« Tu le vois bien, mon père, nous sommes partis trop tard. »
Sa petite moue chagrine trahissait l'importance qu'elle avait mise à se trouver à cette revue.
« Eh bien, Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas à être foulée. » « Restons, mon père. D'ici, je puis encore apercevoir l'empereur. S'il périssait pendant la campagne, je ne l'aurais jamais vu. »«
Voilà, cela suffit. Vous êtes content ?»«
Ah, tout à fait, monsieur. Je vous remercie beaucoup et merci pour votre accueil. »«
Eh bien, écoutez, tout le plaisir est fut pour moi. Au revoir et bonne route. »